Mémoire et paysage. Une série de 66 entretiens de Sylvain Faure avec André Tuboeuf. Aujourd'hui, épisode 48, 1968 et les changements dans la Cagne.
André Tuboeuf, donc en 1960, aux abords de 1968, vous êtes professeur maintenant bien installé à Strasbourg depuis une dizaine d'années. Vous quitterez l'enseignement en 1992. Il vous reste donc
un quart de siècle
à Fustel de Coulanges et uniquement à Fustel de Coulanges. Comment peut-on articuler cette longue période d'un quart de siècle? D'abord, il y a la période de 68, qui n'a pas été sans effet sur vous et sur votre enseignement.
Et sur l'enseignement en général. 68, pour moi en tout cas, a eu un effet extrêmement paradoxal, mais absolument fondamental, et je dirais au sens technique du terme, bouleversant. Ça a redistribué pour moi absolument toutes les données, y compris les données relatives au rapport qu'on peut avoir avec les élèves. En 68, moi j'avais 37-38 ans, j'étais donc enfin dans ma pleine vigueur, et pour autant que j'avais à penser quelque chose de mon métier, j'étais arrivé au moment où j'avais à en penser ceci ou cela, et d'une manière décisive. J'étais arrivé à maturité pendant les quelques années précédentes, comme je l'ai expliqué, par le fait que la Cagne recommençait à se comporter comme une Cagne, qu'il y avait des professeurs qui entraînaient effectivement leurs élèves vers le concours et que tout le monde pouvait y croire. Là-dessus, il y a quand même le coup de tonnerre et la secousse de 68. Or, je ne sais pas si je l'ai dit, mais ça, il faut que je le précise. Depuis le début de mon enseignement, j'avais évité un point presque excessif, même, d'avoir le moindre rapport, la moindre relation personnelle, le moindre contact, la moindre approche entre mes élèves et moi. Je n'encourageais pas les questions en classe, bien au contraire, je les décourageais de la façon la plus dissuasive, c'est-à-dire qu'il n'y en avait pratiquement pas. Et aux intervalles des 2 heures que nous passions en général d'affilée ensemble, je descendais, moi, et j'allais prendre un café chez la mère Hélène, en face à l'horloge astronomique. Et si par hasard je devais être dans le couloir et qu'il y eut des élèves présents là, mon attitude était telle qu'il n'était pas question de venir m'approcher, et on ne venait pas m'approcher, je crois. Je ne sais pas comment je peux expliquer cela, mais enfin à la fois j'étais parfaitement accessible à mes élèves, c'est-à-dire qu'ils n'avaient aucune crainte de moi, et mon comportement intellectuel n'était pas du tout autoritaire ni directif, mais en même temps, enfin, il fallait que ma personne soit intouchable. Bon, j'ai toujours craint comme la peste, enfin, comme la mort exactement, une sorte de caractère inflammatoire ou enflammé que, pour une raison ou pour une autre, et par la faute de l'un ou de l'autre, entre un élève et moi-même, quelque chose puisse s'installer qui rende tout d'un coup les relations telles qu'elles peuvent l'être entre un professeur et une classe complètement désordonnées et peu sûres d'elles-mêmes. Bon, il faut être... C'est comme boire ou ne pas boire de vin, fumer ou ne pas fumer. Il n'y a pas de demi-mesure possible en ces cas-là. Du moins pendant longtemps, pendant la période de plus grande fragilité où on se trouve soi-même, il est clair qu'au moment où on est plus sûr de soi en tant que professeur et en tant que technicien, on va être plus sûr de soi-même dans les relations humaines aussi. Enfin, mais le fait est que 68, jusqu'à 68, je m'en étais tenu à cela. Mais il s'est passé en 68 quelque chose. dont je peux tout à fait parler maintenant, parce que ça n'a pas à être un secret, ça n'est d'ailleurs déshonorant pour personne. J'avais dans ma classe, et je l'avais déjà eu en classe terminale, le petit Bruno Bagnin. Je dis le petit Bruno Bagnin parce qu'il était vraiment, il est resté d'ailleurs de très petite taille, et c'était vraiment comme un souriceau en classe. Il était extrêmement jeune, il était extrêmement doué, extrêmement malin. Son père était normalien, et donc il savait très bien ce que c'était qu'une cagne. Et son père était recteur de l'Académie de Strasbourg, pour le meilleur et pour le pire. Bon. Et il est recteur, ça veut dire fonctionnaire d'autorité représentant la République en vérité. Et avoir à faire cela en 68, au moment même où il y a toute cette espèce de révolution chez les étudiants, ce n'est pas une position particulièrement confortable. Le recteur Bagnin était un homme absolument sympathique et adorable, avec son grand chapeau. Une ou deux fois, j'avais été invité à dîner au rectorat avec ma femme, voilà, je veux dire... Mais enfin, on se connaissait comme cela, et pas plus que cela. Mais enfin, j'avais Bruno dans ma classe. C'était déjà la deuxième année. Et je crois qu'en avril de cette année-là, il leur est arrivé dans la famille un malheur extrême, c'est-à-dire qu'une fille est née, et qui était chimiste, ou qui travaillait pour la chimie, s'est tuée dans un accident de laboratoire. Et cela, je crois, un mois ou quelque chose comme cela, avant mai 68. C'est-à-dire que la famille était déjà fichtrement secouée. Bruno, lui, également très secoué également par l'approche de la Révolution, parce que, bien entendu, il avait des idées beaucoup plus libertaires, et ces idées libertaires n'étaient pas rendues plus faciles à accueillir du fait que son père, auquel il était très attaché, était quand même fonctionnaire d'autorité. C'est quand même quelque chose de cornélien et de déchirant qui pouvait le traverser. Et il faut dire aussi qu'en un sens, il y avait eu un deal dans la famille. Il voulait faire du théâtre depuis toujours, et on l'avait persuadé quand même de faire cagne, d'entrer à l'école, et ensuite il ferait ce qu'il voudrait. Bon, là-dessus arrive mai 68, et à un moment donné, alors que moi j'avais réussi à gérer à peu près les choses à l'intérieur de ma propre classe, en obtenant notamment que même les élèves à cheveux longs qui avaient envie d'y entrer et en fumant n'entrent pas chez moi en fumant. Fasse cette exception pour moi, même s'il disait pipi et caca pour tout le reste de l'université et de l'établissement. Mais enfin, il y a eu le moment où, deux jours après, parce que c'est quand même à Strasbourg que les choses ont été le plus dur, tout à fait au début, il a fallu fermer le lycée, fermer les établissements scolaires. Et question, que vont faire les élèves? Et dans la tête de Madame Bayen, mère, que va faire Bruno? Et surtout qu'il n'aille pas dans la rue. Et elle m'a téléphoné. Elle m'a téléphoné à moi en disant, écoutez, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire. Et j'aimais beaucoup Bruno, qui m'aimait beaucoup, et qui était un merveilleux élève, extrêmement intelligent et extrêmement doué, d'une finesse, d'une culture, d'une capacité de dissertation absolument admirable. Enfin, l'élève idéal, je veux dire, et vraiment, j'aurais fait n'importe quoi pour le prendre sous mon aile et le préserver, mais précisément, il ne fallait pas que j'aie l'air que je lui donne l'air de vouloir, lui, le préserver. J'ai donc trouvé la seule chose que je pouvais faire. J'ai dit à Madame Bayen, écoutez, je vais faire classe à mes élèves chez moi. Voilà. Et ce qui fait qu'à partir du moment où les classes ont été fermées, eh bien au moins chez moi, tous les matins, je pense de 9h30 à midi, les élèves, aussi bien les cagneux qui voulaient venir que les hypocagneux et que les élèves de classe terminale, tout ça mélangeait. Venaient chez moi, j'imagine que je devais leur donner du café et des croissants, ou peut-être qu'ils apportaient eux les croissants. Mais enfin, on a fait classe tous les jours ouvrables. Et de là, et par la force des choses, il s'est établi un contact entre les élèves et moi-même, une familiarité, je veux dire, un type d'accessibilité qui ensuite est devenu, par la force des choses, la loi, et qui a été encouragé aussi, en un sens, par le fait qu'ensuite, je pense que ça a été 2 ou 3 ans plus tard, il y a eu cette ouverture chez nous d'une classe de spécialistes dont j'ai été le bénéficiaire, si je puis dire, ou le responsable en tout cas, le chargé d'eux. Et là, évidemment, autour d'une petite table, et dans une petite salle un peu dégueulasse, comme il pouvait y en avoir dans les combles ou dans les recoins du lycée Fustel-Coulanges, qui était un vieux couvent, avec des tas de recoins et des placards à balais dans lesquels on pouvait faire classe à la rigueur. Eh bien, j'ai dû me trouver, parfois il y avait 4 spécialistes, ce qui était peut-être le maximum, et parfois il n'y en avait qu'un. Et s'il y en avait qu'un, bien entendu, on travaillait et l'un près de l'autre à une table. Et par conséquent, il fallait que la classe se passe aussi proprement et en travaillant autant, enfin, que si on avait été dans une classe de 40. Mais dans un rapport personnel, évidemment, tout à fait différent. Je me souviens qu'il y avait eu Platon, enfin, cette première année. Et Platon était pour moi quelque chose qui me tenait extraordinairement à cœur. Et bien entendu, pouvoir expliquer cela et pouvoir l'expliquer, et d'autant mieux à 2 seulement, ou même à 1 s'il le faut, et qui est là, à côté de moi, sur un banc. Enfin, je veux dire, ça change absolument tout, aux conditions même de l'enseignement. Mais si l'on veut que l'enseignement soit et reste l'enseignement, et qu'il reste magistral, et qu'il y ait d'un côté quelqu'un qui est le maître, et de l'autre côté quelqu'un qui n'est pas du tout le disciple, mais qui est l'élève, il y a même autour d'une table et les yeux dans les yeux, et quelle que soit la proximité et la proximité d'écoute qui se trouve créée par là, il y a une distance qui est la distance sans laquelle le métier ne peut simplement pas se faire. Mais pour cela, 68 a évidemment pour moi bouleversé toutes les donnes. Il les bouleversera d'une toute autre manière avec le temps et très rapidement, au sens où, passé la première euphorie des classes de spécialité, eh bien, le recrutement se trouvera tari sur l'Est, et ceux qui veulent faire ça iront plutôt à Nancy ou à Paris que de rester le faire à Strasbourg, c'est-à-dire que je n'aurai plus cette classe-là. D'une manière générale, la motivation des élèves pour les études littéraires, ils ont pu se dire en 68 que ça consistait essentiellement à aller au Festival d'Avignon, à faire du sit-in et à découvrir à la fois la musique de Wagner, La Mort à Venise, au cinéma et, ce qui restait de Villard, éventuellement se faisant huer, parce qu'à son tour, il représentait l'establishment, enfin. Beaucoup de choses ont pu faire qu'après 68, les études littéraires n'ont plus été des études littéraires au sens ancien et traditionnel du terme, au sens où moi-même je pouvais me dire que j'étais l'aboutissement d'une tradition et que j'avais à en être le passeur. Mais enfin, pour qu'il y ait passeur, il faut qu'il y ait de l'autre côté des récepteurs qui jouent le même jeu. Et pour des raisons sociologiques qui échappent entièrement au contrôle, et qui en tout cas échappent absolument au contrôle de l'enseignant, il n'y a plus eu ces récepteurs au bout du fil. Donc moi, j'ai continué dans les mesures où, de toute façon, ce que je le faisais aussi bien que je le pouvais. Je savais que ça pouvait leur être utile et que ça pouvait leur apporter quelque chose. Mais bien entendu, je ne pouvais plus me dire, comme probablement tous les professeurs avant moi avaient pu se le dire, s'ils font la même chose que moi, ils arriveront là où je suis. C'est un sens de la continuité qui a été possible en France jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale. Ça a pu se continuer moralement jusque dans les années 50 et le début des années 60. Après 68, pour des raisons qui étaient à la fois techniques, par la dégradation et la dissolution plutôt, la dissolution plutôt que dégradation d'ailleurs, la dissolution des valeurs et des mécanismes, des leviers de transmission de l'enseignement, et par le recrutement, et par le départ des professeurs qui eux-mêmes n'étaient plus ce qu'ils étaient. Tout cela, voilà. On se disait, on va le continuer, je suis là, je le continue, c'est mon métier. Tant que je peux l'exercer de façon décente, je continue à l'exercer. Mais d'une certaine manière, je me suis retrouvé comme Don Pélage dans le soulier de satin répondant au roi d'Espagne à un moment donné, oui, mais l'Afrique aussi fait partie des choses auxquelles je ne crois plus. Et comprenez bien dans quel sens je dis auxquelles je ne crois plus. Je croyais encore être capable de le faire. Je croyais, je savais que je continuerais à le faire, mais je ne pouvais plus croire que l'avenir était engagé de cette façon-là.
Pourtant, les années 70, évidemment avec beaucoup de ruptures, à la fois intellectuelles, morales, etc., ont été considérées ou sont considérées aujourd'hui comme une période très riche de l'histoire de l'école normale, des Cagnes, et on en est presque aujourd'hui à regretter ce bouillonnement.
Oui, mais pour ceux qui ont vécu ce bouillonnement, et pour les élèves, et pour ceux qui y accédaient, c'était une chose évidemment extraordinairement excitante, comme sont toutes les périodes de remise en cause et de redistribution des valeurs. Mais je ne sais pas par quel trait de mon caractère je suis quelqu'un qui simplifie extrêmement, qui simplifie à l'extrême. Ou, je veux dire par là plus exactement, il me suffit de saisir un symptôme qui me paraît absolument radical pour simplifier la vision devant moi-même et la radicaliser elle-même. Lorsque a commencé le yéyé, ce qui, vu de là où j'étais, était un phénomène sans aucune espèce d'importance. Ce n'est pas le professeur au fond de moi-même qui se l'est dit, mais c'est le père de famille au fond de moi-même qui se l'est dit. Je me suis dit, voilà, il y a « salut les copains », il y a des modes pour enfants et pour copains qui vont se créer, et les enfants vont avoir le droit et le pouvoir d'acheter ce qu'ils ne peuvent pas payer. Et j'ai simplifié en moi-même la situation comme cela. Et j'y ai vu venir, dans le long terme, quelque chose qu'en effet cela a produit, et qui était extraordinairement important. De la même manière, lorsque j'anticipe, mais enfin, c'est le même genre de simplification qui me paraît importante. Avec le point, quand je serai au point, on sera en plein dans ce qu'on appelle le boom de la musique, et c'est précisément à cause de ce boom de la musique, ce boom supposé de la musique, et le long terme de ce boom, lui aussi supposé, c'est pour cela que j'ai été recruté, et on a fondé avec le point un mensuel qui s'appelait « Musique ». Bon. Dans la pensée que, voilà, il y avait un avenir là-dedans, et le point voulait d'ailleurs me recruter pour que je quitte l'enseignement complètement, et que, voilà, que je m'occupe, voilà, de ça pour toujours et à jamais, comme si c'était une chose définitive. Et pour faire porter en quelque sorte sur les fonds baptismaux, enfin, faire bénir par la République cette institution, Claude Imbert et Olivier Chevrillon, qui à l'époque étaient le PDG du Point, sont allés trouver Giscard, enfin, ou ont espéré aller trouver Giscard pour faire bénir leur projet. Et ils n'ont pas eu d'entrevue avec Giscard. Giscard ne leur a pas accordé une audience pour cela. Et ce dont ils ont été très maris. Mais moi, j'ai vu plus loin que cela, c'est-à-dire je me suis dit, Giscard, bon, il n'y a pas boom. Il y a un boom, mais ça ne va pas plus loin que ça. Ça ne va pas modifier les structures de la chose. La musique ne va jamais être autre chose en France qu'un passe-temps, que quelque chose de plus qu'on va mettre dans le chapeau le chapeau plus ou moins glamour de la culture et de la distraction et du loisir et du passe-temps. Giscard ne les reçoit pas, tout Imbert et Chevrillon qu'ils sont, point barre. Item, lorsque je me suis trouvé chez Jacques Duhamel, et que d'une façon beaucoup plus sérieuse et dans un cabinet. Je veux dire, on était en train de lancer le plan Landowski, enfin voilà. Et à ce moment-là intervient l'histoire du pétrole. Bon, et l'argent qui était destiné à la culture, qui était à inscrire dans les budgets de la culture, cet argent-là, il faudrait le récupérer de toute façon pour faire la différence avec le pétrole. Et pour moi, je veux dire, c'est ça que j'appelle des simplifications qui vont d'un seul coup. Et moi, ce qui s'est produit pour moi en Cagne à ce moment-là, c'est « Ah, ils ne lisent pas Bérénice, ils lisent Barthes sur Bérénice ». Et c'était vrai. C'est-à-dire, ce ne sont plus des lecteurs. Ce sont des butineurs d'idées comme elles sont dans l'air du temps. Ils n'ont pas tort de le faire, et c'est très excitant pour eux, et ça produit toutes les effervescences que l'on voudra. Mais ça vous donnera simplement dans 10 ans, dans 20 ans, éventuellement des professeurs de Cagne qui n'auront pas lu Bérénice à 18 ans, et qui peut-être à 40 ne l'auront toujours pas lu, parce qu'ils penseront que Barthes en tient lieu. Bon, et moi, j'ai en moi... Vraiment, je ne peux pas dire pourquoi, mais j'ai certainement ce sens de la simplification, qui est sans doute le meilleur de ce que j'ai retenu de la Cagne, c'est-à-dire au milieu 20 dates et événements et détails possibles qu'on vous donne dans une chronologie pour étayer ou simplement étoffer ou émailler avec votre dissertation d'histoire au concours, il y a le point sur lequel vous allez tout concentrer et tout bâtir en disant voilà, le reste était du détail et là-dessus il y a quelque chose de fondamental et qui va me permettre d'avoir devant moi une perspective qui est ordonnée et qui a un sens. Et là, j'ai su que les Cagnes allaient continuer, que les écoles normales allaient continuer, qu'il y aurait toujours des concours et comme toujours des premiers au concours et des derniers au concours. Et le fait qu'il soit premier ne veut plus rien dire simplement parce que le niveau aura changé et que les études de lettres seront faites pour les gens qui n'ont plus de lecture. Voilà. C'est-à-dire, et je ne dis pas des lectures qui vous meublent l'esprit au sens où, à la rigueur, Barthes peut vous meubler l'esprit, mais vous meublez l'esprit de quoi ? Bah, de choses que vous allez dire dans un dîner en ville ou discuter entre copains devant un café, mais pas des choses sur lesquelles vous allez travailler. Barthes n'est pas quelque chose sur quoi on peut travailler. Barthes est un sémillant. Ce n'est pas... Je crois que c'est un compliment tout à fait fondé que je lui fais. C'est un sémillant. Mais ce n'est pas un ensemenceur et ce n'est pas un bâtisseur. C'est un fuite. Et dans les salons et sur le pari des salles de classe et des salles d'études telles qu'il est arrivé à ce moment-là, on se dit, mais c'est merveilleux. Comme d'autres auteurs pourraient nous libérer en matière de sexe, eh bien Barthes nous libère en matière d'obligation d'études. Je veux dire, je ne suis plus obligé de potasser Bérénice, je ne suis plus obligé de lire Racine, je peux lire Barthes. C'est tout, c'est tout. Or, moi, je crois que pour parvenir à Barthes, et pour être Barthes, il faut faire comme Barthes a fait, c'est d'abord se taper très bien tout Racine. Et à moins de s'être tapé tout Racine, Barthes, au niveau où il était, au niveau culturel où il était, n'aurait jamais pu écrire aucun de ses livres. Et devenir comme Barthes, et même être capable d'utiliser les idées qu'il y a dans Barthes et de jouer avec, de manière à ne pas se brûler complètement les ailes et les cils à leur feu, et bien voilà. Et de la même manière, j'ai toujours eu l'idée qu'il y avait les choses qui font de l'usage et les choses qui ne le font pas. C'est une des premières idées que j'ai eues en musique, et sans me le dire du tout de cette manière-là, mais en lecture aussi, je veux dire. Et il y a les livres que vous lisez en vous disant « ça me fera de l'usage », c'est-à-dire « je vais les relire toute ma vie ». Et on s'aperçoit qu'on les relit toute sa vie, aux dépens éventuellement d'autres choses qui pourraient étoffer et orner tout à fait notre fond de lecture. Je me le suis dit tout de suite en musique. Je me dis, bon, il y a les choses que j'aime entendre parce qu'elles me font plaisir. Je suis enchanté d'entendre une belle voix chanter le prologue de Payas. Mais enfin, ça ne me change pas la vie. Alors que j'entends un impromptu de Schubert simplement. Et en même temps que ça me fait le plus grand plaisir, et faut-il dire plaisir ? Oui, nous avons tout de même toute une théorie de plaisir dans le Phileb, et nous savons que nous pouvons y trouver, et je vois même Jean Kelevitch monter à cette occasion précisément tout en haut de son échelle du sensible dialecticos-synopticos. Bon, plaisir n'est pas un terme qu'il faut rejeter, mais derrière le plaisir, il y a l'accession par le moyen de plaisir à toutes sortes de choses qui ont cessé d'être du plaisir pour devenir un pays de connaissance et un pays de vérité, un pays de révélation. Bon, et dans Schubert, à travers le plaisir immédiat et superficiel que peut me faire cet impromptu, j'ai moi-même le pressentiment d'une patrie plus profonde dans laquelle ça risque peut-être de me faire entrer. Cela va me faire de l'usage, et 50 ans après, je n'en aurais pas fini avec cet impromptu-là. Et les gens croient qu'il faut déjà qu'il s'agisse d'un des derniers quatuors de Beethoven pour qu'on se dise « je n'en aurais jamais fini avec lui », ou du docteur Faustus de Thomas Mann. Mais non, c'est des choses beaucoup plus simples. C'est Bérénice, si l'on veut, chez Racine, qui est quand même moins compliqué que le docteur Faustus. Et c'est un simple impromptu de Schubert dont, en principe, un enfant peut avoir fait le tour. Eh bien, cet impromptu, on n'en finit pas, parce que le mystère profond de Schubert et de la relance chez Schubert et du ressassement chez Schubert et du retour à la profondeur dans la remémoration, cela recommence à chaque fois et on n'en a jamais fini avec. Bon, à ce moment-là, une des choses voilà, dont je crois n'avoir pas encore parlé et qui a été très importante pour moi, lorsque j'ai eu mes élèves et que je me suis dit « mon Dieu, il faut que je trouve des choses dont je puisse parler à mes élèves », c'est-à-dire qui établissent entre les élèves et moi une passerelle, un pont, un terrain commun sur lequel eux peuvent se trouver avec ce qu'ils ont en tête et moi je peux me retrouver avec l'idée de les faire avancer plus loin. Il y a eu pour moi la révélation qu'a apporté René Girard, qui a été une chose très importante intellectuellement et spirituellement pour moi. Bon, bien entendu, dans l'un comme dans l'autre cas, Simone Veil était déjà passée par là, mais enfin, en ouvrant culturellement des choses qui nous maintenaient encore le plus souvent chez Platon, enfin, ou du côté des Upanishads, alors que René Girard, avec ce livre absolument fondateur et fondamental pour moi, qui était le mensonge romantique et vérité romanesque, j'ai vu, voilà, ce que, ayant lu Dostoïevski, ayant lu Balzac et Stendhal, on peut mettre en commun avec les élèves en leur apprenant à en tirer beaucoup plus que ce qu'ils n'imaginaient pouvoir en tirer. C'est-à-dire des structures, des lois, des modèles, des profondeurs, je veux dire, des choses sur le rapport à l'autre, enfin à travers le mimétisme ou la mimésis chez Girard, me sont apparues des lois que personne n'avait énoncé, que peut-être beaucoup avaient soupçonné, mais qu'à ma connaissance, personne n'avait énoncé. J'ai grandi dans une civilisation et dans une éthique où l'on avait le sentiment que si la volonté, en un sens, était impersonnelle et avait à fonctionner selon des modèles en quelque sorte d'universalité dans lesquels précisément le caractère individuel ou personnel se trouvait en quelque sorte nié ou transcendé ou dépassé. Le désir, en revanche, était la part en nous inaliénable d'individualité. Bon, et je crois pouvoir dire que c'est Girard qui, le premier, nous a fait comprendre, avec les mots qu'il y avait pour le dire et les exemples qu'il y avait pour le montrer, que le désir lui-même, dans la plupart des cas, et sauf innocence absolue du sujet, était lui-même quelque chose qui nous était indiqué, qui nous était montré du doigt par l'autre, et que c'était dans l'imitation de l'autre et dans une aliénation vis-à-vis de l'autre, c'est-à-dire dans une aliénation pure et simple, que se déployait en nous l'espace du désir. Bon, il y a des choses bien entendu fascinantes à indiquer en littérature, et je me suis précipité moi-même là-dessus, et je dois dire, je l'ai fait lire à mon collègue Baudry, qui était mon aîné de 20 ans, qui a été tout à fait fasciné par la chose, et qui lui-même l'a utilisé, enfin il l'a intégré tout à fait à sa lecture de Balzac et à sa lecture de Stendhal, tout en regrettant, comme moi-même je pouvais le regretter, le détestable vocabulaire philosophique que Girard prenait pour dire des choses qui auraient dû être expliquées, enfin expliquées, vocabularisées, si je puis dire, d'une façon tout à fait différente et pas avec ces termes de médiation interne et de médiation externe qui, si vous revenez au mot même de médiation et de interne et externe, ne peuvent pas vouloir dire cela. Voilà. Il y manque donc l'armature conceptuelle, je veux dire, prudente, qui aurait permis enfin, d'utiliser Girard à un tout autre niveau et d'une toute autre façon. Mais je dois dire que dans Girard, en tout cas, je trouvais de quoi faire partager aux élèves quelque chose qui devenait philosophique, tout en ayant ses racines et ses exemples pris dans la littérature. Mais après tout, tout le monde allait emprunter dans la tragédie du côté de Sophocle et d'Euripide, avec la bénédiction de Nietzsche et de Freud, par conséquent, il était entièrement légitime d'en faire autant pour Balzac, Stendhal et Dostoïevski.
Cette conviction que les choses après 68 avaient changé radicalement, est-ce que ça l'a changé au-delà de Girard? Est-ce que cela a changé votre façon de faire? Est-ce qu'il y a aussi quelque chose qui s'est dissous dans votre enseignement? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez lâchées?
Non.
Comment ça s'est passé à ce moment-là? Et comment est-ce qu'on vit avec cette conviction que le métier qu'on fait tous les jours a brusquement changer de sens? Est-ce qu'on peut même dire que c'est démonétisé?
Démonétisé, ça je le savais d'avance. Je veux dire, on n'a pas eu besoin d'attendre 68 et la suite et la déconsidération de l'enseignement pour socialement, de toute façon, l'enseignement était déconsidéré en France, sauf chez quelques professeurs de faculté qui, quand ils étaient professeurs de faculté, ne devaient de toute façon leur renom qu'au fait qu'ils publiaient et qu'ils étaient auteurs. Mais ce n'est pas leur dignité universitaire qui les mettait au-dessus du lot. L'enseignement et l'université sont maltraités en France, c'est vieux, c'est plus vieux même que De Gaulle. Ça date de Gaulle les méprisait. Il le rendait bien, mais ça n'a arrangé la situation ni des uns ni des autres. Je me trouvais, moi, un peu protégé à Strasbourg, où, comme je l'ai dit, quand je suis arrivé, on me portait ma serviette en m'appelant monsieur le professeur, sur le modèle de Herr Professor. Bon, mais cette déconsidération, pour moi, n'avait pas d'importance. J'avais déjà fait mon choix. Ce qui a eu de l'importance pour moi, c'est de voir que les élèves, comme j'avais aimé en avoir, et comme je les avais suivis, moi, pendant 3 ans ou 4 ans, ou parfois 5 ans d'affilée, parce qu'ils avaient commencé avec moi et que je les amenais ensuite jusqu'à l'école normale, comme ça a été le cas de Jean Balsamo, que j'ai gardé pendant 5 ans, ce qui est simplement déraisonnable. Bien. Mais enfin, on pouvait le faire. Mais il n'y avait plus d'élèves de ce genre. Il n'y avait plus d'élèves de ce type et ils ne se formaient pas de la même manière, simplement parce que à partir d'un certain moment, le secondaire ayant été d'abord vidé par De Gaulle de ses agrégés et ensuite 68 étant venu donner le coup de raz-de-marée ou de boutoir ou de bouleversement sur ceux qui restaient à l'intérieur des lycées, simplement l'enseignement secondaire n'était pas bien renseigné, n'était pas bien distribué, il n'y avait pas les gens compétents pour faire leur travail. C'était des professeurs qui eux-mêmes n'avaient pas de lecture et qui par conséquent ne pouvaient pas en communiquer à d'autres. Alors il y a toujours eu, comme partout et toujours, le fait que, à la base, les choses continuent à être comme elles avaient été, parce que tout dans le système de l'éducation, tout dans la présence des parents, tout dans l'environnement social et culturel n'a pas été bouleversé d'un seul coup, voilà. Et les choses se prolongent elles-mêmes. Et en apparence, en plus, enfin, non seulement les classes étaient étaient protégées, étaient nombreuses, et il y avait des gens qui y venaient, mais il n'y en avait plus que pour eux. C'est-à-dire que les étudiants étaient devenus les rois du monde, et par conséquent avaient tout intérêt à devenir étudiants pour être sûr de devenir un jour, ou d'être déjà, des grands hommes en puissance. Mais je veux dire, à mes yeux, cela n'empêchait pas que je voyais qu'il n'y aurait plus jamais la continuité un peu exceptionnelle sur laquelle moi j'avais pu fonctionner à Strasbourg. Et il n'a jamais été question pour moi de m'en aller. C'est à ce moment-là qu'on m'a effectivement proposé à Paris, au point, pour, tout simplement, de m'en aller et d'aller faire autre chose, mais je tenais à cet enseignement, et ça, ce dont je vous parle, c'était déjà 1978, 1979 et 80, c'est-à-dire le moment où, à mes yeux, l'effet 68 c'était, dans l'enseignement était perceptible depuis très longtemps. Cet effet allait jusqu'au point que les professeurs de Cagnes, même, Baudry une fois parti, Il y a eu cette chose enfin désolante. Les professeurs ne désiraient même pas que les élèves puissent cuber devant eux, puissent rester chez eux à cuber. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de sujet de dissertation, de rechange à leur donner l'année suivante. C'est une chose désespérante que je n'ai pu savoir que par ricochet, et parce qu'un de mes élèves me l'a dit en disant pourquoi ils ne pouvaient pas cuber. Le professeur de français qui a succédé à Baudry ne disposait pas d'un répertoire suffisant pour se permettre de le faire durer pendant 2 ans consécutifs devant ses élèves. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut dire à cela? Qu'est-ce qu'il faut dire à cela? Ils étaient qualifiés, ils étaient nommés par l'inspecteur général. Ils étaient femmes, en plus, si je puis le dire en bon français, de cette manière-là. Ils étaient femmes, en plus, c'est-à-dire d'autant plus intouchables. Mmh. Mais simplement, ils n'avaient pas le répertoire pour le faire.
Est-ce que vous diriez la même chose des Cagnes parisiennes?
Non, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire puisque je n'étais pas dans les Cagnes parisiennes et je sais que Paris est une exception par rapport à la province.
Et vous n'avez pas été tenté d'y revenir?
Si j'ai été tenté, bien entendu, j'aurais probablement eu la possibilité en me faisant pistonner d'y revenir. Et comment dirais-je, le prestige de Louis le Grand pour quelqu'un qui a été Louis le Grand, et être un jour professeur soi-même, là où on a eu Savin et Alexandre, on se dit, bon, c'est le rêve de quelqu'un. Simplement, c'est le rêve de quelqu'un dans un monde qui est resté le même. Mais dans un monde qui a autant changé, ce n'est pas possible. Je n'ai jamais aimé l'esprit parisien, je n'ai jamais aimé l'esprit corrosif, qui n'est pas d'analyse, mais qui est d'ironie, qu'on peut avoir dans Paris. Je sais très bien à quel point moi-même et ce que je peux raconter peut être entièrement corrodé par l'ironie de quelqu'un d'autre. Je savais qu'à Strasbourg, il n'y avait pas d'ironie et je n'avais pas le désir de m'exposer moi-même à l'ironie parisienne. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais essayé de changer de Strasbourg. Je me suis dit, je suis acclimaté à Strasbourg, à tort ou à raison, je suis devenu comme une espèce de potiche. Eh bien, j'y reste, sachant que, sauf une révolution de plus, je pourrais y continuer d'y enseigner dans des termes qui sont toujours les miens. Et quand je dis les miens, c'est-à-dire continuer comme je le fais, sans programme, car telle est la loi, à partir du moment où il n'y a plus de spécialité pour moi, je suis retombé effectivement dans le système où la préparation du concours se faisait sans programme. J'ai eu l'autre Cagne qui m'est échue à partir d'un certain moment parce qu'il fallait bien que j'ai quelque chose de plus que mes 6 heures de Cagne si je voulais continuer à être payé et à satisfaire à mes obligations. Mais enfin, là, on avait 3 heures sur un seul sujet dans l'année et pour l'écrit seulement, et je veux dire, et 3 heures par semaine pour parler de l'art ou de l'histoire.
C'était la Cagne moderne.
Ça, mmh. Voilà. À mon avis, ça ne servait à rien. Mais enfin, je pouvais traiter cela sans me changer moi-même en spécialiste de la chose. J'ai donc continué à le faire, mais en sachant que ça ne... Voilà. Que du moment que la chose continue à fonctionner, je pouvais continuer à fonctionner avec elle, mais sans croire le moins du monde à l'avenir de cette chose.
Retrouvez tous les épisodes de ces entretiens sur la page kobuz.com/tubeuf.